VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bonjour à Abidjan, midi à Libreville, bienvenue à notre journal. Au Sénégal, poursuite de l'audition des victimes au procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré, jugé pour crime contre l'humanité devant un tribunal spécial africain à Dakar. Burkina Faso, le gouvernement de transition souligne que la conquête par les troupes loyalistes mardi du camp de Nabakoum 2, bastion des putschistes du régiment de sécurité présidentielle RSPA à Ouagadougou, n'a fait aucune victime. Le témoignage de notre correspondant Zoumana Ronogo, qui a visité ce camp mercredi.
Sur place, les constats ne donnent pas lieu à un champ de bataille de désolation. Seulement, des portails défoncés par-ci, des guérites calcinées par-là. Pas de cadavres qui jonchent la place. Le président de la transition, Michel Kafando, explique cela par le professionnalisme de l'armée burkinabé.
Honneur à cette armée nationale qui a réussi la prouesse tenant du miracle de mettre fin à la rébellion sans perte en vie humaine, ni du côté des loyalistes, ni du côté des insoumis.
Le Burkina Faso revient de loin et cette crise RSP porte en elle le nouveau Burkina, selon les mots du président Michel Kafando.
L'honneur est sauf pour notre vaillante armée nationale. Plus de RSP pour l'humilier à toute épreuve, plus de RSP arrogant et dominateur. Une page de notre histoire est ainsi tournée. Le nouveau Burkina est en marche. Restons mobilisés à l'appel de la nation pour la poursuite du processus électoral dont nous fixerons très bientôt les nouvelles échéances en concertation bien sûr avec les partis signataires de la charte.
Zoumana Ounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, plus d'un millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu des compensations dans le cadre d'un processus d'indemnisation en cours depuis 2 mois. Au micro de Jean-Roger Bion, les explications de Maria Toukoné, directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale, en charge de ce processus à Abidjan.
Au titre de l'indemnisation, nous avons commencé avec 4500 personnes et aujourd'hui, l'indemnisation, je dirais, se porte bien parce que près du tiers des victimes a reçu réparation.
Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été donné à ces gens qui ont subi les effets de la guerre?
Grosso modo, il y a plusieurs types de préjudices, mais nous avons commencé par les décès, c'est-à-dire atteinte à la vie, et puis atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont subi des blessures physiques et morales. Pour les personnes qui ont perdu la vie, ayant droit reçoit 1 million de francs CFA par personne décédée. Et puis pour les personnes blessées, c'est la prise en charge médicale et psychologique totale et intégrale jusqu'à guérison.
Alors il y avait 2 camps opposés lors de la crise post-électorale. Est-ce que tous les camps ont été pris en compte, madame?
Nous faisons les réparations sans tenir compte de camps. La mort n'a pas de couleur, la victime n'a pas de couleur. Qu'on soit de tel bord politique ou de tel autre bord politique, les victimes ne sont pas répertoriées en fonction de leur bord politique, mais en fonction des cas de décès, en fonction des cas de blessures, en fonction des cas de pillage, etc. etc. Et donc, toutes les personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire, civiles comme militaires, leurs ayants droit reçoivent réparation, sans tenir compte de la religion, ni du parti politique, ni de l'appartenance ethnique.
Alors, jusqu'à quelle période cette indemnisation va s'étendre?
Le processus de réparation a commencé, il va continuer jusqu'à ce que toutes les victimes reçoivent réparation sur le territoire national et même au-delà, s'il y en a qui sont à l'extérieur.
Pensez-vous que cette opération va contribuer à l'apaisement à 1 mois de l'élection présidentielle?
Fortement contribué à l'apaisement et ça a déjà commencé parce que des gens qui n'avaient aucun soutien, qui voient maintenant qu'ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président, ils reçoivent compassion également de toute la nation, je pense que ça soulage les douleurs. Et aujourd'hui, il y a un engouement autour du processus de réparation des préjudices dus aux victimes qui fait que nous ne pouvons que saluer l'opération et nous espérons que ceux qui étaient encore réticents, qui avaient lancé des mots d'ordre demandant aux gens de ne pas s'inscrire, que ces personnes-là comprennent qu'il faut que tout le monde s'inscrive pour bénéficier du fonds spécial d'indemnisation pour les victimes, parce que ça ne tient pas compte de camp, ça ne tient pas compte de couleur, ça ne tient pas compte de religion, ça ne tient pas compte de parti politique.
Maria Toukoné, directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale. Une semaine après la bousculade mortelle de Mina en Arabie Saoudite pendant le pèlerinage annuel de la Mecque, Riyad n'a toujours pas communiqué la nationalité des centaines de victimes. Mais l'Iran a déjà fait savoir que 464 pèlerins iraniens ont perdu la vie dans la catastrophe. Et le Mali comptabilise 53 morts et plus d'une centaine de disparus. Pourquoi autant de difficultés à identifier les victimes? Au micro d'Idriss Fall, la réponse du ministre malien du culte, Tierno Asdiallo, qui s'est rendu personnellement à Mina, en Arabie Saoudite.
Objectivement, pour identifier un corps, vous n'avez pas moins de 8 heures. Au regard d'une journée de 8 heures, donc c'est une journée. Ça se complique parce que soit au bout de la chair, vous vous rendez compte que le corps identifié n'était pas votre victime. Alors c'est là aussi que ça peut se poser. Et vous imaginez combien de victimes, combien de camions réfrigérateurs à remplir parce que toutes les morgues sont débordées. Hein? J'en reviens pas. Il faut saluer le courage des autorités saoudiennes qui ont pu faire face à cette situation inattendue. Mais évidemment, il y a des difficultés. Mais c'est pour une fois dire à nos concitoyens de comprendre tout l'effort fait par l'encadrement, les services consulaires et autres. Mais de là-dessus, c'est vraiment le parcours du combattant.
Tierno Asdiallo, ministre malien du culte.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a évoqué la lutte contre Boko Haram de son allocution hier à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, nous dit notre envoyé spécial sur place, Tatiana Mosso. Au moins 1600 personnes ont été tuées dans les violences attribuées au groupe islamiste nigérian en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis le mois de juin, et plus du double depuis le début de l'année, Eddie Sango.
Le nombre de personnes tuées est vraiment choquant, déclare le directeur pour l'Afrique d'Amnesty, Netsanet Beley. Dans un communiqué cité par l'AFP, M. Beley déplore la mort de plus de 3500 victimes civiles en moins de 300 jours, soit depuis le début de l'année. Amnesty International interpelle les gouvernements des pays concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des civils dans les zones affectées. Les décès déplorés ont été enregistrés au Nigeria, mais aussi au Cameroun, au Tchad et au Niger. Pourtant, l'armée nigériane a récemment assuré gagner du terrain dans sa contre-offensive contre les insurgés, affirmant avoir détruit plusieurs de leurs camps et libéré plusieurs centaines de femmes et d'enfants retenus captifs par les groupes. Le président Muhammadu Buhari a donné début août 3 mois à ses forces armées pour venir à bout de l'insurrection.
En RCA, baisse des tensions à Bangui après les violences qui ont fait au moins 36 morts depuis samedi. Des troubles qui vont affecter les perspectives électorales dans le pays, selon le chercheur et consultant d'Amnesty International, Jonathan Pedno, au micro de Tatiana Mosso.
On s'attend maintenant évidemment à un report supplémentaire. La présidente a annoncé que la feuille de route électorale ne tenait plus la route finalement. Évidemment, présentement, la violence qu'on voit actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est que la MINUSCA, qui est présente sur le terrain, n'a pas su rapidement gérer la situation. Les forces françaises ont dû intervenir à de nombreuses reprises, soit en appui à la MINUSCA ou même en remplacement de la MINUSCA à certains moments, selon les informations qu'on a pu obtenir. Donc ça, c'est véritablement ce qui nous préoccupe pour l'instant, parce qu'on a une forte présence des forces internationales en Centrafrique, et malgré ça, on se retrouve néanmoins avec un bilan là, qui frôle les 50 morts, des centaines de blessés, des bureaux humanitaires d'organisations internationales qui sont pillés. Donc c'est extrêmement préoccupant.
Jonathan Pedno, au micro de Tatiana Mosso, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Et pour terminer, conflit syrien, nouveau raid de l'aviation russe aujourd'hui contre des positions d'Al-Qaïda et des rebelles islamistes syriens dans le nord-ouest et le centre de la Syrie. Par ailleurs, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rejeté ce jeudi ce qu'il qualifie de doute infondé des Occidentaux, selon lesquels les premières frappes aériennes de Moscou hier en Syrie n'auraient pas visé le groupe État islamique. Il dit aussi n'avoir pas d'informations sur d'éventuelles victimes de ces premiers raids. Plus de détails sur les premières frappes russes et ses réactions diverses avec Michel Joseph.
L'aviation russe a effectué 20 sorties aériennes et touché 8 cibles du groupe État islamique en Syrie, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Toutefois, le chef de l'opposition syrienne en exil, Khaled Roja, a affirmé que 36 civils ont été tués dans une frappe russe. Il a accusé les Russes de soutenir le gouvernement syrien contre la population. De son côté, le chef de la diplomatie syrienne, Walid al-Mualem, que citent les médias d'État de son pays, s'est félicité de l'existence d'un nouveau mécanisme de coordination entre la Syrie, la Russie, l'Iran et l'Irak pour combattre le terrorisme. Le secrétaire d'État américain John Kerry a dit pour sa part que Washington est prêt à accepter l'intervention russe en Syrie, à condition qu'elle soit dirigée contre le groupe État islamique et les groupes liés à Al-Qaïda. Toutefois, selon le patron du Pentagone, Ash Carter, les zones visées par les avions russes ne semblaient pas inclure celles où opèrent les militants du groupe État islamique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également sur notre page Facebook. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.